Shalom, Boker Tov, les Koulam. Boker Tov. Alors voilà, j'espère que ce matin, ça va marcher. On a eu un petit problème. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se repasse maintenant? C'est pas vrai, ça. Allô? Allô, allô? Alors quoi, ça marche? Comment ça marche pas du tout? De mon côté, ça marche, les gens sont connectés. Ça s'en fiche. Attends, là, on me répond, ça marche. Ça marche? Yofi. 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 Ok, alors ça marche. Il y a fait. Alors, on va pouvoir commencer notre cours. Alors, je répète, Yofi, 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 ça marche. Donc, je répète ce que je disais, la sauvegarde du 9 av, j'ai juste mis un autre titre parce que sinon, dans l'ordinateur, c'était compliqué de mettre deux fois le même titre pour deux événements qui sont différents. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de ce qu'on avait prévu de parler hier. Donc, Boker Tov à tout le monde. Et donc, on est parti pour notre paracha de Shlach Lecha. Et donc, j'ai posé la question, est-ce que les explorateurs sont tous des religieux? Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. OK, on va essayer de un petit peu s'imprégner de notre histoire des explorateurs. Et je voudrais tout de suite mettre les choses au clair. Lorsqu'on prend les explorateurs, on ne peut pas les prendre comme étant des petits joueurs. Ce ne sont pas des gens qui n'ont aucune connaissance. Ce ne sont pas des simples réchaïms qui décident de se révolter contre Dieu parce qu'ils ont envie de se révolter contre Dieu. C'est absolument pas ça. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là. Nous dit la Torah, qu'il faut bien se rappeler, ce sont Rachet Bene Israël Hema. Ce sont les chefs spirituels du peuple juif. Certes, pas les chefs politiques, mais les chefs spirituels du peuple juif. Donc, franchement, on ne peut pas venir dire que c'est des gens qui ne connaissent rien. D'autre part, ce n'est pas stable les chefs spirituels, c'est les chefs spirituels à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas un petit mec qui a fait un an d'yeshiva et qui dit n'importe quoi. Une fois qu'on a dit cela, alors il faut se poser la question, pourquoi ben, vont-ils décider d'aller contre ce que Dieu il a dit? Parce que ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Dieu il a dit, on rentre en Israël, les explorateurs ils ont dit, on ne rentre pas en Israël. Malasot, il y a une petite contradiction interne. Et donc, si on regarde bien, eh bien, on va trouver. Alors, vous avez tout à fait la libre possibilité de me donner encore plus d'explications, mais d'après ce que moi j'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai trouvé quatre explications de pourquoi du comment, de pourquoi ces hommes-là décident de rejeter l'appel de Dieu. La première, c'est l'explication du Pshat, de la Torah. La deuxième, c'est l'explication du Talmud. La troisième, c'est l'explication du Sefer HaZohar. Et la quatrième, c'est l'explication d'Emmanuel Levinas. J'essaie comme ça, enfin non, c'est pas vraiment chronologie, parce que le Zohar est un petit peu avant le Talmud. Alors, vous savez quoi? On va dire le Zohar d'abord et ensuite le Talmud, comme ça, on essaiera de garder un fil chronologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres rabbins qui ont parlé, hein, évidemment, mais je veux dire, si vous voulez, c'est les quatre grands avis que j'ai pu trouver. Il y a plein de rabbins qui disent le même avis. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'après la Torah, d'après le Pshat, pourquoi les explorateurs décident de ne pas rentrer en Israël? Et d'ailleurs, d'après une grande partie de tous ces commentateurs, avant même de partir, ils savent déjà qu'ils ne veulent pas rentrer. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une scission entre Yehoshua et Caleb et les autres. Maintenant, d'après le Pshat de la Torah, pourquoi ils ne veulent pas rentrer en Israël? Bah pour une raison très simple. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qu'ils vendent au peuple juif. Ils disent, on est venu là-bas, on a vu, ils ont des villes avec des forteresses incroyables, ils ont des géants, on va se faire tuer. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. C'est dangereux. La deuxième raison, qu'on va amener donc par le Sefer HaZohar, c'est qu'il nous dit que Sérachet Béné Israël savait que lorsqu'il rentrerait en Israël, il ne serait plus. les Rachel Béné Israël, ils seraient remplacés dans leur rôle par d'autres rabbins qui sont peut-être plus propices à la terre d'Israël, qui seront moins grands qu'eux, mais peut-être plus adaptés, enfin pas peut-être, plus adaptés à la terre d'Israël. Et donc, ils ne veulent pas être remplacés. Maintenant, ils ne veulent pas être remplacés. On peut tout de suite voir ici deux options. Soit tu le vois du côté purement négatif, genre je tiens à mon poste de politicien, je suis accroché à ma chaise avec de la super glue, ou de manière idéaliste. Ils voient que les gens qui vont les remplacer sont beaucoup moins grands spirituellement que eux. Ils se disent, mais attends, mais alors pourquoi est-ce qu'on va se faire remplacer? C'est le peuple juif qui va en pâtir. La troisième donc explication, celle du Talmud, nous dit, ils ont dit ki chazak hu mimenu. C'est un des versets qu'on va trouver donc dans la Torah. C'est-à-dire quoi, ki chazak hu mimenu? Eh bien, nos explorateurs ont dit, Israël est trop fort, ou du moins Eretz Kenan est trop fort pour lui. Alors, ça ne peut pas être eux, ils sont trop forts. Bon, d'abord, parce que grammaticalement, ça ne marche pas. Et puis aussi, parce que, un, ben, ça reprend le premier argument. Et en vrai, c'est sûr que tu peux faire peur à une population. Mais quand tu réfléchis deux secondes, et c'est vrai que les masses ont du mal à réfléchir. Les individus qui forment les masses peuvent réfléchir. Ben, quand tu réfléchis deux secondes, tu te dis, attends, Dieu, il a battu, et sans difficulté aucune, il a battu Pharaon d'Égypte. Dans Pharaon d'Égypte, c'est genre les États-Unis d'aujourd'hui. Et il va avoir du mal contre les 31 petits rois de Canaan. Encore une fois, 31 rois entre Dimona et Kirat Shmona. Ça montre bien, bah, c'est des mers, quoi. C'est des mers de petites villes. T'imagines bien que leur armée, elle n'est pas folie. Donc si Dieu il a réussi à se débarrasser de Pharaon, il n'a aucun problème de se débarrasser d'eux. Non, il semblerait que ce n'est pas ça qui les dérange. Ce qui les dérange, c'est qu'il chazak hu mimenu, à savoir, quand on va rentrer en Israël, la artziout va devenir de plus en plus puissante. Le côté matériel va nous submerger. Eh bien oui, parce que nous savons très bien que rentrer en Israël, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'on n'a plus de nuée protectrice, ça signifie qu'on n'a plus la manne, ça signifie qu'on n'a plus Moshe. Depuis la semaine dernière, Eldad ou Medad nous ont dit que Moshe ne rentrera pas en Israël. Ça signifie qu'il va donc falloir aller travailler la terre, qu'il va donc falloir sortir du Beit HaMidrash et être imprégné de la vie au quotidien. On n'y arrivera pas. On va complètement abandonner la Torah si on n'est plus au Beit HaMidrash. Donc, vaut mieux rester dans le désert. Au moins, on est sûr de garder une spiritualité énorme. OK ? La déjudaïsation amenée par l'arrivée en Israël. C'est la troisième explication. Et la quatrième explication, donc, que j'ai pu trouver chez Emmanuel Levinas, c'est le premier que j'ai vu qui a écrit cela, il dit dans Quatre lectures talmudiques qu'en fait, ce qui dérangeait les Meraglim, c'était un problème moral. Disant, on ne mérite pas de venir ici, il y a déjà ici des Cananéens. On ne peut pas prendre la place des Palestiniens, des Cananéens. Hein. Lapsus absolument volontaire. C'est-à-dire, il y a déjà des gens ici, on ne peut pas venir et être une armée d'occupation et voilà, on va devenir un état d'apartheid ou alors on va commettre des crimes contre l'humanité, machin. Non. Donc nous avons ici quatre avis. Si quelqu'un qui m'écoute connaît une autre raison, Fadal, vous pouvez m'en faire part avec plaisir. Maintenant qu'on a mis en place ces quatre raisons, je voudrais, avant de continuer, rappeler une chose. Une svara, une réflexion, peut être la meilleure du monde, mais elle ne peut pas contredire des psukim clairs et évidents. Elle ne peut pas non plus contredire des mitzvot. Pashut. J'ai entendu une fois, alors je n'en c'est pas un argument, mais pour vous dire jusqu'où l'esprit humain peut aller. J'ai entendu une fois quelqu'un me dire que si on réfléchit bien à l'pi halakha, il faut, attention, tenez-vous bien, avoir des relations interdites. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, il voulait conquérir, mais par les miracles seulement. C'est pas ce qu'ils disent. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ça, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais ça, je reviendrai peut-être plus tard. Ce que tu dis, Moshe, c'est Moshe. C'est la faute de Moshe. OK, mais ça, on y reviendra. Donc, quelqu'un m'a dit, non, mais tu vois, d'après la halakha, en fait, je pense qu'il faut permettre les relations interdites. Je dis, ah bon ? C'est quoi les relations interdites ? Je vais essayer de ne pas être trop, trop direct, mais quelqu'un m'a dit que il faudrait permettre dans les couples mariés la jouissance extérieure. Je ne sais pas si vous avez bien compris de quoi je parle. Ex-utérin, un plaisir ex-utérin. Et il me dit, effectivement, on parle d'un couple marié qui a déjà fait des enfants et qui donc doit faire mitzvah tana'a. Il y a une mitzvah de faire plaisir à sa femme, en l'occurrence. Mais si tu viens et tu dis, mais ta femme, elle kiffe te voir, toi aussi prendre du plaisir, nanana, alors peut-être que ça veut dire qu'il faut permettre, et Dafka, c'est dans le roar des choses, surtout dans notre génération, où il y a tellement de films malheureusement terriblement pas beaux et dans lesquels on voit ce genre de jouissance. Alors l'homme, il a envie et puis il se sent opprimé et puis il pense que c'est son couple qui l'opprime et donc après il va aller voir ailleurs. Donc il faut permettre. D'abord, le mec, il réfléchit comme ça. Mais au-delà de réfléchir comme ça, c'est bien ton idéologie, pourquoi pas ? Mais une malasot, la Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de gaspiller la semence et de gaspiller la vie. Tu peux me la sortir dans tous les sens. C'est assourd. Et donc, la Torah nous a dit, il faut venir en Israël. Nekouda. Il y a un argument que les explorateurs n'ont pas dit. C'est de dire, je veux, mais je ne peux pas. C'est-à-dire, je veux vraiment venir, mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Problème de Parnassa, problème, je ne sais pas, moi, je ne peux pas. Mais ça, ils n'ont pas dit. Parce qu'ils savent très bien, les explorateurs, que celui qui ne peut pas, ben, on ne peut pas lui en tenir rigueur, mais Dieu, il n'est pas dupe. Il sait si tu peux vraiment ou si tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Comment se fait-il qu'ils ont ces avis-là, alors que la Torah est clairement opposée à cela ? Eh bien, tout simplement, nous dit le Gaon de Vilna, et son élève, Rabbi Israël Mishklov, dans son livre « Kol HaTor », que le Yetzer Hara des explorateurs est un Yetzer Hara qui particulièrement touche les Talmidei Chachamim. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Talmid Chacham, et attention, tenez-vous bien, parce que ça, c'est assez révolutionnaire ce que nous dit le Kol HaTor, parce que le Talmid Chacham Bagalout ou Klal Israël. Ou Kol Israël. Il n'y a pas marqué là-bas. Klal et Kol Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je vais vous demander à vous et à moi qui avons grandi en Chutz La'aretz, le rabbin de la communauté, c'est la communauté. Il y a un ma'amad qui est donné au rabbin, c'est lui le patron. Moi, je me rappelle quand on avait fait notre formation avec ma femme pour partir en shlichut pendant quelques années. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais partir en shlichut quelques années, donc on a eu une formation pour cela. Et une des choses qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est très difficile quand tu pars en shlichut, c'est de revenir de la shlichut, surtout quand tu pars en tant que rabbin. Parce que lorsque tu arrives dans la communauté de Chutz La'aretz, eh bien, le rabbin, c'est au minimum le numéro 2 de Dieu, et des fois, c'est même son remplaçant. Mamash, mais malé makom. Les gens, ils sont là et on met le rabbin là-haut. Alors que quand tu reviens en Israël, personne ne t'attend pour être rabbin. Maintenant, c'est quoi ce Yetzer Hara qui touche cet Talmidei Chachamim ? C'est de se dire, moi je représente la Torah, donc je représente Am Israël. Parce que Bagalout, il n'y a de peuple juif que ses représentants de la Torah et ceux qui gravitent autour. Quelqu'un qui s'éloigne du rabbin, donc de la Torah, il a fini par s'assimiler, se marier avec une Goya et c'est terminé, il est perdu pour le peuple juif. Donc Bagalout, Achachamim, Arabanim, ce sont eux les garants du peuple juif. Avalze Bagalout. Bedor Ageoula, puisque Am Israël rentre à la maison, Eh bien, tous les domaines de la vie sont les domaines juifs. Aujourd'hui, quand vous prenez l'État d'Israël n'est pas qu'un État, aux yeux du monde et aux yeux de nous, n'est pas qu'un pays où il y a des grands rabbins. C'est aussi un pays où il y a la majorité de la Torah, Zenachon. Mais c'est aussi un pays de high-tech, c'est aussi un pays que de tourisme, c'est aussi un pays, je sais pas moi, de démocratie. C'est aussi un... Et donc, tu peux mettre en avant ton identité d'Israël aujourd'hui, même quand tu n'es pas religieux. Donc, on comprend pourquoi Bagalout, eh bien, il y a ce Yetzerara de vouloir rester Bagalout. Et en fait, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que bah, cette histoire des explorateurs ne s'arrête pas à l'époque du désert, mais elle revient et revient et revient à chaque fois qu'on veut sortir d'exil. À chaque fois qu'il y a une opportunité pour sortir d'exil, rebelote les explorateurs. Et à chaque fois que ça arrivera, où il y aura une tentative de sortie d'exil et qu'il y aura des gens qui vont venir nous refroidir, et qui vont dire « Non, non, vaut mieux rester en roule. » Eh bien, à chaque fois, ça reprendra un des quatre arguments qu'on a amenés tout à l'heure. Bah, alors, le premier cas, évidemment, bah, bon, c'est les explorateurs, ça on a dit, mais après, bah, le premier cas, même si on peut voir avec Shevna face à Chizkiyahou un problème comme ça, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, pour la simple raison que ce n'est pas vraiment le même cas, puisqu'on est en Israël face à un ennemi qui arrive. Mais le premier cas de sortie d'exil, d'opportunité de rentrer en Israël, eh bien, c'est avec Shiva Tzion. Shiva Tzion, on a reçu la permission de Koresh, roi de Perse, en -538. Il y a eu la déclaration Cyrus. Donc on est 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Il nous donne la permission de revenir. Nous, il y a fait. Non seulement les goïms nous donnent la permission de revenir, mais en plus, on a des prophètes qui nous disent « Ko Amar Hashem, faut revenir. » Par exemple, Haggai, Zecharia, Malachi. Et on a même un descendant de la lignée de David, un descendant de David Ameler, Zerubbabel ben Shaltiel, pour être notre dirigeant. Donc, ça semble vraiment une autoroute pour rentrer en Israël. Ben non. Avec Zerubbabel, il y aura peut-être 2-3 000 personnes. Et même si tu prends l'épisode qui a eu lieu un tout petit peu plus tard, Ezra et Nehemia, où on met en place un gouverneur juif pour Israël, c'est Nehemia, Ezra est le guide spirituel du peuple juif et il dit « il faut remonter ». Bien là, pareil, quelques dizaines de milliers vont venir, c'est mieux qu'avant, mais c'est rien comparé à l'étendue du peuple juif. Et quand tu lis le livre de Ezra, tu te rends compte que les seuls qui viennent sont les Rotsrim, Mamzerim, Nesueta, Rovet. Bon, autant te dire, pas la fine fleur du judaïsme. Ah, certainement pas. Et où sont les élites? Où sont les rabbins? À Babylone. Ou en Perse. Ils restent à Babylone et en Perse. Lama. Lama? Qui est Tovlaem? Tovlaem. Tovlaem po Fajam. Et ils ne veulent pas partir parce que c'est Kef à Galout. Ça rentre dans l'argument du Talmud qui dit on ne veut pas rentrer en Israël. Mais c'est vrai que là-bas, j'ai donné un argument qui était idéal. Je n'ai pas encore mis le truc parce que je ne voulais pas porter atteinte à la Kdusha de ces tzadikim, des explorateurs. Mais bon, il y a une autre raison que je n'ai pas amenée, mais qui malheureusement, c'est vrai aussi. Je n'ai pas envie parce que j'ai mon confort. J'ai mon confort en Rousselaret. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Shiva Tzion. Les Juifs décident de rester à Babylone. Lama, Keflem. Pashut. Pashut, Keflem. Et on en connaît tous. On en connaît tous des gens qui sont comme ça, qui pourraient très bien venir en Israël. Aval Tovlem, Sham. Après, ben, l'histoire avance. Ceux qui vont rester à Babylone vont rester à Babylone. Finalement, il y a l'époque du deuxième temple. Et il va y avoir un nouveau sursaut pour l'Alia. C'est une fois qu'on se débarrasse du joug extérieur à nous. Même si les Perses nous ont permis de venir, c'est quand même les Perses les patrons. Et lorsque les Grecs vont conquérir l'Empire Perse, et bien ça deviendra les Grecs. Et vous savez ce qui se passe, à un moment donné, il y a la révolte des Maccabim, de Hanouka. Et à ce moment-là, une fois qu'on reprend le contrôle officiel d'Israël, eh bien, il y a un engouement pour l'Alia, évidemment. Ça y est, les Juifs sont au pouvoir en Eretz Israël. Et donc là aussi, il y a une vague d'Alia qui va vouloir venir. Et je te rassure, il y a une vague également de... une vague d'anti-Alia qui se met en place. Mais attention, cette vague d'anti-Alia qui se met en place, qui se met en place, hop là, vous inquiétez pas, c'est pas, ça bug pas, c'est juste que, pour des raisons techniques, je ne pouvais pas vous montrer ce qu'il y avait derrière moi pendant deux petites secondes. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et la sortie d'Égypte, selon Rashi. Ah ben oui, évidemment, la sortie d'Égypte, il y en a plein qui ne veulent pas. C'est-à-dire que ceux qui sortent, c'est la minorité du peuple. Tu as raison. Là, la sortie d'Égypte, tu as raison de préciser ça. Avant même l'histoire des explorateurs, quand il s'agit de sortir d'Égypte, ben, il y en a plein qui ne veulent pas parce qu'ils sont bien en Égypte. Nahon, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les explorateurs, quand ils étaient en Égypte, ils étaient de ceux qui ont dit « Non, on sort ». C'est après. Parce que ceux qui sont restés en Égypte, ils étaient bien en Égypte. C'était le fameux « Je suis bien en Égypte ». Alors que les explorateurs, c'est « Je suis bien dans le désert, mais pas pour des raisons matérielles, plus pour des raisons spirituelles ». Ok ? C'est plus un idéal toranique en exil. Mais qui tsour ? À l'époque donc du Deuxième Temple, hein, on a à présent le même problème quand on a monté au Harabait. Nous sommes un État souverain et certains rabbins interdisent. Ah non, Daniel, désolé, ce n'est absolument pas la même chose. Le problème qu'on a aujourd'hui au Harabait, il est complètement différent. C'est-à-dire, aujourd'hui, la souveraineté israélienne est la seule souveraineté qui prévaut au Harabait. C'est-à-dire que lorsque tu montes là-bas, ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est la police. La police avec un drapeau d'Israël sur le bras. Ce n'est pas la police jordanienne. La police répond par contre aux indications du gouvernement et le gouvernement donne à la police les indications que la WAQF jordanienne, donc l'organisation qui est censée gérer les lieux saints jordaniens, sont eux qui sont responsables de ce qui se passe administrativement sur la montagne. Maintenant, pourquoi est-ce que la police fait ça? Parce que le gouvernement lui a dit. Pourquoi le gouvernement lui a dit? Parce que au niveau de la population juive, la majorité des juifs ne veulent pas avoir affaire avec le monde du temple. Pour ce qui est des rabbins, eh bien, il y a les rabbins qui disent qu'il ne faut pas monter sur le Harabait pour des raisons halachiques. Il y a des rabbins qui disent qu'il faut monter sur le Harabait. Malheureusement, la majorité des rabbins, elle dit qu'il ne faut pas monter. Et comme ça va tout à fait dans le sens de la non-volonté de prise de tête politique, eh bien, les politiciens, ils gèrent là-dessus. Ok, mais ce n'est pas la même chose, parce que là, il ne s'agit pas d'explorateurs. C'est nous qui décidons tout simplement de nous torpiller à un endroit. Mais Bezrat Hashem, Inch'Allah, comme on dit, eh bien, ça changera. Oui, bah, ça a commencé en 1967, effectivement. Mais on n'a pas donné la souveraineté à la Jordanie sur le Harabait. Ce n'est pas le cas. Mais Kitsour, donc, lors du deuxième temps, je disais, il y a une nouvelle vague d'Alia, puisque les Hashmonaïm sont là, donc il y a plein de Juifs qui vont monter en Israël. Et effectivement, Jérusalem va grandir énormément à ce moment-là. Seulement, à ce moment-là, se met en place, tenez-vous bien, un Beth Amikdash alternatif au Beth Amikdash de Jérusalem, à Éléphantine, à quelques kilomètres d'Alexandrie, en Égypte. Eh ouais. On va créer un endroit qui s'appelle Beth Ronio, mis en place par un Kohen Gadol il y a longtemps, le frère du Kohen Gadol qui s'appelait Ronio. Mais Beth Ronio, c'est un Beth Amikdash pour Dieu, pas pour l'idolâtrie, pour Dieu. Mais en Égypte, à une époque, on peut revenir servir au Beth Amikdash. La Mamakara, d'autant plus que Ronio était un religieux. C'est pas un mec qui... Non. D'où il sort cela? Certains diront que c'était à l'époque où le Kohen Gadol à Jérusalem, c'était Al-Kimot, c'est qu'il était à la solde de la Grèce. D'autres diront qu'il a pris son influence de Jérémie. de Yirmiyahou Hanavi, qui a accompagné les exilés en Égypte, comme Yéhézkel les a accompagnés en Babylone. Et c'est donc la névoie de Jérémie en Égypte qui donne, si tu veux, l'origine de la source de dire « Non, c'est en Égypte que Dieu il veut qu'on soit. » Il y a maintenant un idéal de rester en Égypte. Agave, entre parenthèses, ça va tellement bien marcher que pendant toute l'époque du Deuxième Temple, Alexandrie sera la plus grosse communauté juive du monde. Et ouais, c'est terrible. Ça fait un Beth Amikdash alternatif. C'est absolument absurde. Et puis après, destruction du Deuxième Temple et tout ça, et l'Empire byzantin, ne nous laisse pas du tout la possibilité de nous exprimer. Et en fait, pendant un millier d'années à peu près, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à le 12-13e siècle, le monde entier rentre dans une espèce de coma de réflexion, le Moyen-Âge. Et au sein du peuple juif, la question d'Israël n'est plus qu'une question théorique, parce que arriver ici, c'est concrètement extrêmement dangereux. Entre les Byzantins, après les Mamelouks, après les premiers Arabes, après les croisés, qui sont, c'est très dangereux. Donc c'est un débat, mais c'est un débat Eretz Israël qui n'est que théorique, entre des yeshivot, entre les yeshivot de Babylone, oui, parce que les Juifs sont toujours à Babylone ou à Alexandrie. Et donc dans ces deux yeshivot, Soura et Pompédita, eh bien on va se disputer. L'une est plus sa tendance à vouloir dire qu'il faut partir en Israël, et certains rabbins venant de là-bas vont faire le pas et vont partir, comme Rabbi Zeira par exemple. Et il y a la yeshiva de Pompédita, où il y a un rabbin qui s'appelle Rav Yehuda, qui dit « Tout celui qui monte en Israël transgresse un commandement de la Torah. » Oui, parce que lui, il pense que dans le verset, lorsqu'il a marqué « Vous devrez rester à Babylone et vous attendrez que je vous ramène », eh bien, Rav Yehuda, il pense que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire son alia. Bah, c'est complètement fou. Mais lorsque va tout d'un coup arriver une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité de venir en Israël, et elle a lieu au 13e, au 12e siècle, 12e et 13, surtout 13e siècle, où tout d'un coup, les Mamelouks vont prendre le contrôle et sont très intéressés par avoir des Juifs qui vont un petit peu gérer la zone. Et donc, tout d'un coup, il y a une nouvelle opportunité de venir en Israël. Et donc, ça va donner naissance à une nouvelle alia. Quelle nouvelle alia? Une alia que personne ne connaît, qui s'appelle la alia des 300 rabbins. Ça se passe au XIIIe siècle, alors ce n'est pas à un moment donné, c'est sur un prisme d'à peu près une centaine d'années, mais il y a 300 dirigeants juifs qui viennent de tous bords, qui décident de venir en Israël. Ils drainent avec eux, je ne vais pas dire des foules, mais une partie de leur communauté. Parmi eux, on va trouver des noms comme Rabbi David Hanagid, le petit-fils du Rambam. On va trouver évidemment le Ramban, qui va venir après sa dispute de Barcelone. Et pour nous, Français, anciennement juifs de France, eh bien, on va également pouvoir rappeler le nom de Rabbi Yechiel de Paris. Rabbi Yechiel de Paris, un débat allé à Tosafot, il vient en Israël. Attention, hein. Il vient en Israël et vient s'installer à Akko. Akko. Comment on dit en français Akko? Quelqu'un sait comment on dit en français Akko? Allez, je vous laisse répondre. Nounou? Personne? Si, vous savez. Allez, je vais vous le dire moi. En français, Akko, on appelle ça Saint-Jean d'Acre. Bon, Saint-Jean pour le mec qui est arrivé là-bas. Voilà. Bah oui, je savais bien que vous allez le dire. Bien sûr. Le seul problème, c'est quoi? Bon, Saint-Jean vient, on le met de côté. Il était ni saint, ni obsédère. Mais pourquoi d'Acre? Ma question, Acre. Akko. Je comprends qu'en français, quand tu as des prononciations qui vont pas avec le français, tu adaptes. Genre, Hebron, c'est devenu Hébron. J'entends, parce qu'ils ne savent pas dire. Mais là, il n'y avait pas de problème d'appeler ça Akko en français. A-C-C-O. Ou A-K-O, je m'en fous. Ou A-C-O. Akko. Tu as été obligé de m'appeler ça Acre. Mazekachou. Eh ben pour une raison très simple. Les croisés, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils ne connaissaient rien à la géographie. Donc, ils étaient persuadés d'être arrivés à la ville de Ekron, au sud de Ashdod. Donc, ils ont appelé ça Ekron, Acre. Et puis, en fait, non, ils sont arrivés à Akko, Carbon. Kitsour, Rabbi Yichel de Paris, il arrive à Akko. Et là-bas, il crée un bêta midrash. Attention, tenez-vous bien, qui s'appelle Midrash Rabba de Parishi. Le bêta midrash à Gadol de Paris. Nounou. Et donc, il y a des gens qui viennent. Ils sont freinés par ce qu'on appelle Chassidé Ashkenaz. Ou Chassidé Ashkenaz, au 12-13e siècle, vont dire pas du tout, il ne faut pas venir. Mais pourquoi ils disent qu'il ne faut pas venir? On retrouve ce qu'on avait déjà vu. C'est dangereux. Tom, nous, bah, ça refroidit les gens. Et les gens ne viennent pas, dans leur majorité. Et puis, il faudra attendre encore, allez, encore à deux bons siècles, pour arriver au 15e siècle. Enfin, fin du 15e et début du 16e surtout. Et là-bas, on va voir, bah, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, un tout nouveau engouement pour la terre d'Israël. Alors, évidemment, tout le monde ne veut pas aller en Israël. Il y en a plein qui vont aller au Portugal, qui vont aller en Europe de l'Est, qui vont aller dans le Nouveau Monde, Bichlal. Mais il y a un engouement pour être Israël. Et parmi les grands noms qui vont arriver en Israël, eh bien, je vous ai dit, ça s'étale, hein, c'est évident, c'est sur plusieurs époques. On va avoir d'abord les arrivées de Rabbi Yosef Karo, on va avoir les arrivées du Harizal, ça c'est pour le début du 16e. Et puis on va avoir évidemment, au 17e siècle, une autre vague comme ça de gens qui vont monter. On va avoir, je sais pas moi par exemple, je pourrais vous donner Rabbi Chaim Ben Attar, Aroch Chaim HaKadosh, ou Rabbeinu Yishayahu HaLevi Horovitz, Baal HaShla. Ils vont arriver à ce moment-là. Ils vont arriver à ce moment-là. Et évidemment, il y a l'impulsion donnée par Don Yosef Nassi, duc de Naxos, premier ministre de l'Empire ottoman, et sa tante, Donna Grazia, bien sûr, Nassi, qui vont mettre en place cette volonté de retour en Israël. Qui, à ce moment-là, est l'opposant principal au sionisme de l'époque, du 16e siècle, qui est les explorateurs de l'époque? Eh bien, ce sont les rabbins de la Renaissance, les rabbins italiens, et également les nouveaux fondateurs du Pilpul en Pologne. Rabbi Shalom Sachne, par exemple. Les explorateurs modernes qui disent pas du tout comme avant. Genre, c'est dangereux, on est bien en Babylonie. Ils disent au contraire, maintenant, il y a un idéal. Les rabbins italiens vont dire, mais tu rigoles ou quoi? La Renaissance, elle se passe en Italie. Donc, si tu veux que la Torah, elle grandisse, il faut qu'elle soit là où ça se passe. Il y a ici un idéal de rester en exil. Ça ressemble à ce que nos explorateurs ont dit. Non, non, on est très bien dans le désert parce que Moshe, Anani Kavot, tout ça. Et après cela, il y a les aliotes du 18e et du 19e. Eh oui, le Ramchal, bien sûr. Il y aura également l'Aliya des Chassidim en 1777. Les élèves du Baal Shem Tov. L'Aliyah de l'Itaïm, un petit peu plus tard, 30 ans plus tard, en 1808, avec Rabbi Yisrael Mishlov et Rabbi Yisrael Mishkov, qui étaient les élèves du Gaon de Vilna, finalement. Et cette nouvelle tentative est arrêtée, encore une fois. Par qui? Eh bien, cette fois, par trois styles d'explorateurs. Et j'ai posé la question dans le titre du cours d'avant qu'on n'a pas fait. Est-ce que les explorateurs sont tous religieux? J'ai expliqué que Bagalout Ken, j'ai expliqué pourquoi, mais au 18e et surtout au 19e siècle, il y a une nouveauté. C'est que on commence à sortir d'exil même si on ne le voit pas. Et donc il va y avoir une itnagdout qui n'est plus forcément religieuse parce qu'on se redéfinit en tant que juif, plus forcément en tant que rabbin. Et donc parmi les gens qui vont s'opposer normalement au sionisme du 19e, eh bien il s'agit du baron de Hirsch, Maurice de Hirsch par exemple. Le baron de Rothschild, au début, il était contre, il était avec Hirsch. Ce n'est qu'après avoir discuté avec le rabbin Tzadok Khan de France, qui lui a fait comprendre qu'amener les Juifs en Argentine, c'était les amener dans une autre exil, qu'il a préféré les amener en Israël. Mais tout d'un coup, le baron de Hirsch prend une place très importante dans l'antisionisme. Il y a évidemment toujours des rabbins en Europe de l'Est qui sont contre, mais il y a une nouvelle source d'itnagdout, c'est le judaïsme de France, Rabotai. Et ce judaïsme de France, évidemment, ne peut pas être sioniste parce qu'il a vu en la France le nouvel idéal du judaïsme. Ni plus ni moins. Pas je suis bien en France. Non, c'est là-bas qu'il faut être. Et le siècle des Lumières, et les Français, machin, les Juifs de France, et la folie, et le grand Sanhédrin de Paris, le consistoire, et Khadome. Sauf qu'à un moment donné, Dieu il a dit, j'en ai marre, je veux qu'ils rentrent, mes enfants. Et donc arrive le sionisme étatique, politique, de Herzl, et aussi avant lui, du Rav Guttmacher, du Rav Kalischer, du Rav Khalal Kalai. Et on est toujours, quand il s'agit de Dorshet Tzion, c'est-à-dire du Rav Kalischer, du Rav Guttmacher, les opposants, les explorateurs de leur époque, ce sont des tzadikim. C'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit non, idéalement, il faut rester en Allemagne. Mais lorsque Herzl prend les commandes, alors là, il y a une tripotée d'explorateurs, c'est fantastique, mais ça devient facile pour eux d'être des explorateurs, puisque le chef des sionistes, il n'a plus de kippa. Donc maintenant, c'est facile. On est opposé au sionisme, lama kacha. Et tu vas trouver des grands noms de la Torah. Rav Elchanan Wasserman, le Rav Yoel Moshe Teitelbaum, le Rabbi de Sotmer, le Rav Dov Ber Milubavitch, le cinquième Rabbi de Chabad, à Moarachab, le Rav Zilberstein. On a ici des grands noms de la Torah qui sont sans aucun doute des tzadikim, mais qui s'opposent farouchement à la retour, au retour en Israël. Il ne faut pas se leurrer, ce sont des explorateurs des temps modernes. Pashut kacha. Et leur nouvel argument, c'est de dire ah ben, le chef des sionistes, il n'est pas religieux, donc c'est forcément pas soul. Quel rapport avec la soupe? Dieu, il t'a donné une mitzvah de venir. Tu t'en fiches qu'il y ait des pas religieux qui la fassent. Alors quoi? Si maintenant, tu as des pas religieux qui, je ne sais pas moi, qui font de la tzedaka, alors tu ne feras plus de tzedaka? C'est complètement absurde. Et puis, arrivent les explorateurs des temps modernes, les explorateurs d'aujourd'hui. On trouve toujours des explorateurs religieux, mais plus qu'eux. Puisqu'aujourd'hui, il y a de nouveaux facteurs. Et vous vous rappelez des quatre que j'ai cités tout à l'heure? Enfin, des cinq, grâce à celui qui m'a fait, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais qu'il y avait aussi la notion d'être bien en exil. Pas idéalement, thoraniquement parlant, mais juste matériellement parlant, on est bien là-bas. Eh bien, aujourd'hui, dans le post-sionisme qui s'oppose au sionisme, eh bien, nous avons les cinq. Oui, on connaît tous des gens, religieux ou pas, qui décident de ne pas venir en Israël, lama, parce que... Ah ouais, non, mais moi, j'adore Israël. Non, mais j'ai bien sûr, mais moi, j'ai une maison à Ashdod, tu rigoles quoi? Mais je ne viens pas, hein, parce que tu comprends, c'est dur, on est bien quand même. On est bien en France. Tu en as d'autres qui disent, c'est dangereux, il y a des attentats, j'ai peur. Il y en a d'autres qui te disent, ma pitom, en France, je suis quelqu'un. Bah, je vais venir en Israël, personne ne me connaît. Genre, je vais être remplacé par des autres têtes. Ou alors, il y a le côté, attends, c'est pas moral, on va prendre la terre des Palestiniens. Et il y a enfin le côté, attention, venir en Israël, c'est se déjudaïser. Comme a dit le rabbi de Satmar il y a quelques années en France. C'est honteux. C'est honteux, tout simplement. Tu peux être honteux avec une barbe et un chapeau. C'est honteux de parler comme ça. C'est pas chute. Comme nous dit le Talmud, qui reprend les versets de David Ameller, de Tehilim, c'est quoi la faute des explorateurs? Vaïm asu be'eretz remda. Ils ont décidé de rejeter la promesse de Dieu. On est en quelle année? On est en 2020, d'après le calendrier chrétien. Ou en 5780 de chez nous. Bekitsour, mais je pense que tu ne fais pas référence à cela. Donc, frère. Mais aujourd'hui, on a donc cette nouvelle tendance. Et puis, nous avons un autre opposant, Hadash, au sionisme, c'est le monde réformé. Le monde réformé, évidemment, particulièrement aux États-Unis, ne se voit pas, il ne se représente pas en Israël. Donc, il est opposé à cela. Alors, quelle est la tchouva? Puisque dans toutes les générations, on voit que il y a eu des explorateurs qui étaient, pendant l'exil, que des religieux. Et une fois que le processus de sortie de l'exil est mis en place, eh bien, tout d'un coup, on a des explorateurs pas religieux. Qu'est-ce qu'on leur répond? Mais il y a deux réponses. Il y a la réponse de Kalev et il y a la réponse du peuple juif. Kalev, il dit... Il va se scinder du reste des explorateurs et il va aller à Hebron. Lama? Oui, évidemment, Maurice, tu as raison, bien sûr. Bien sûr, je ne vais pas Non, je ne fais pas de procès ce matin. C'est avant Shabbat. Je n'ai pas les nerfs de faire un procès à tous ces gens qui crachent dans la soupe. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. Tous ces rabbins qui ont été sauvés par l'agence juive, par le sionisme, quand on les a mis dans la trame Kastner et qui sont arrivés en Israël, là, sont partis aux États-Unis et qui maintenant sont trucs. Mais ça, j'ai envie de te dire, je ne suis pas un psychologue, tu vois, mais Freud, il nous a bien expliqué cela, qu'on haït celui qui nous fait une tova. C'est-à-dire, parce qu'on lui est redevable. C'est très très dur de ressentir qu'on est redevable à quelqu'un. C'est dur. Vous savez, quand tu n'es pas vraiment redevable, genre c'est Ritsoni, c'est cal de dire merci à quelqu'un qui t'a tenu la porte. Merci, merci, merci. Mais moi, je vous parle personnellement. Je peux dire merci au monde entier, facilement. Mais dire merci à ta femme qui t'a fait quelque chose, ça c'est caché. Ça c'est caché. Parce que tu sens que Béhémet a l'influx sur ta vie. Et quelque part, intrinsèquement parlant, à l'intérieur, tu te dis, ah, elle a pris le contrôle. Maintenant, même si elle est mal à la sotte, elle a pris le contrôle, et c'est comme ça. Mais toi, tu as pris le contrôle de sa vie aussi. Parce que maintenant, quoi que tu vas faire, ça va influencer sur sa vie également. C'est très dur dans les couples de se dire merci. Parce que, un, tu penses que bah, c'est normal, donc tu n'as pas de raison que je dise merci. Et deux, parce que Béhémet, en vrai, tu te rends compte que elle a une influence totale sur ta vie, qu'elle soit positive ou positive. Et donc, c'est dur pour toi d'admettre. Et la position de Lévinas, pourquoi ne pas l'analyser? Mais si, j'ai dit! Mais bien sûr! Il y a environ 55 ans, le rabbin de l'Union libérale a fait son alia, les libéraux français étaient sionistes. Alors, je répète, je vais répondre à la question libérale avant de la question. Lévinas, c'est pour ça que j'ai précisé particulièrement le monde réformé américain. OK? J'ai précisé ça. Effectivement, le monde libéral en France, il avait moins de problèmes avec le sionisme. Effectivement. Mais le monde libéral en France, il n'existe pratiquement pas. Même s'il a une renaissance aujourd'hui qu'il faut combattre, gentiment et respectueusement, mais à l'époque, le monde libéral en France, il ne représentait pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai précisé aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de Lévinas, j'ai dit, bien sûr, la position de Lévinas, c'est la position du post-sionisme moderne, du bon gaucho de base, qui dit, on ne peut pas prendre la terre des Palestiniens, ça ne se fait pas. Alors, quelle est la réponse de Lévinas? Bien, la réponse de Lévinas, c'est qu'on n'est pas là pour prendre un lopin de terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dégager le Palestinien et se mettre à sa place. Parce qu'à la limite, ça pourrait ne pas être justifié. Lévinas nous dit, on est là. Parce que Dieu nous a dit d'être là. Et on est là donc pour créer ici une société qui va rattacher le ciel et la terre. Malasot que toi tu as pris ma place. J'étais là avant toi. Certes, tu es venu, tu as kiffé. Ce n'est pas de ta faute que je reviens. Mais je reviens pour créer quelque chose de tellement plus grand que ce que toi tu proposes. En malasot. Maintenant, tu veux participer, tu peux rester au sein de la terre d'Israël en tant que minorité nationale et accepter l'autorité d'Israël. Tu peux? Bekef? Kitsour, tout ça pour dire que, eh bien, on voit qu'au fur et à mesure des générations, les exploitants reviennent, quelle que soit la raison. Mais il faut bien se rappeler que Zé a sourd et que la faute des explorateurs est la pire faute du désert. Quand je dis la pire faute, quand tu parles des fautes dans le désert, tu penses tout de suite au veau d'or. C'est-à-dire, mais le veau d'or, ça a été pardonné finalement. Dieu a dit, Vayomer Hashem, Salarti Kidvarecha. Alors que la faute des explorateurs, toute la génération est morte dans le désert. Et pour que vous ne disiez pas, alors pourquoi? Parce que la faute du veau d'or, c'est une faute d'empressement. J'ai voulu trop vite être en contact avec Dieu, et donc j'ai fait une erreur. Mais c'est beaucoup moins grave qu'une faute de retard, où Dieu t'a dit c'est le moment, et toi tu as dit non, on verra plus tard, pas maintenant. Quand tu rends ton devoir trop vite, bah, tu fais des fautes. Mais tu auras quand même une meilleure note que celui qui ne rend pas son devoir parce qu'il n'a pas eu le temps de finir, il était en retard, qui a eu zéro. Donc, Baruch, que la faute des explorateurs est terrible. D'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure la faute de Moshe par rapport aux explorateurs. Effectivement, Moshe dit en réponse aux explorateurs, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va faire les miracles. Et c'est la raison officielle, la vraie, pour laquelle il ne rentre pas en Israël. Parce qu'il voyait le monde d'Israël comme étant le monde du désert, ou c'est Dieu qui gère les miracles. Et c'est ce qu'il dit dans le début de Devarim, lorsqu'il dit Gambi itanaf Hashem. À cause de moi, enfin, Dieu m'a aussi puni moi à cause de la faute des explorateurs. Et non pas à cause de la faute du rocher et tout ça, machin, comme on nous a voulu nous le dire. Regardez dans le début du livre de Devarim, chapitre 1, 2, 3, 4. Moshe le dit clairement. Rabotai, ça s'est passé quand, cette faute des explorateurs? Eh bien, ça s'est passé à Tisha B'Av. Enfin, ils sont revenus le 8, ils ont pleuré, et donc, le soir qui a suivi, le 9, c'est là que Dieu a donné la punition que personne ne rentre en Israël, et c'est donc le premier truc qui s'est passé à Tisha B'Av. Et j'ai dit comme titre du cours, parce qu'il va quand même falloir quand même un tout petit peu l'évoquer, que Tisha B'Av était la sauvegarde du peuple juif. En quoi? Eh bien, si tu veux, c'est quoi Tisha B'Av? C'est le moment où tu vas partir en exil. Là, 40 ans, Dieu a dit, tu pars en exil. Le premier Beth Amikdash détruit, tu pars en exil. Deuxième Beth Amikdash détruit, tu pars en exil. Le fait que les Romains aient mis en place concrètement l'exil, bon, bah, voilà, c'est l'exil, quoi. Nahon, c'est l'exil. L'exil est ce qui nous permet de ne pas tomber trop profondément dans la Knaaniyout. C'est-à-dire que lorsque on part trop en cacahuète, c'est ce que dit la Torah dans Parashat Vayechanan et qu'on dit Venoshantem Baaretz, vous êtes devenus des vieux en Israël. C'est quoi des vieux? Genre pour vous, être ici, ouais, c'est normal, quoi, je suis né ici, tu vois, mais j'ai aucun attachement. C'est je suis là. Alors pour répondre à cela, pour pallier à cela, eh bien, lorsque le peuple juif sera trop dans cette nonchalance, alors il va partir en exil. Il va partir en Tisha B'Av, qui va lui permettre de lui rappeler que non, il n'est pas là-bas parce que bon, je suis né là-bas. Il est là-bas parce que c'est la promesse que Dieu lui a faite. Et que donc, s'il est sorti, il doit y revenir. Rabotai, je ne saurais vous dire d'autre chose que le fait que, aujourd'hui, nous sommes la génération qui corrige la faute du Vaudor. Juste après, du Vaudor, des explorateurs, etc. Juste après la faute des explorateurs, dans la paracha, on voit qu'il y a la faute des Ma'apilim. C'est-à-dire, le lendemain, il y a un groupe de juifs qui est devant Moshe qui disent, bon, on a compris notre erreur, on y va. C'est bon, on y va. Et Moshe leur dit, ça ne sert à rien. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Et Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, il dit, pourquoi il dit cette fois-ci, ça ne marchera pas? Il dit parce qu'il y a une autre fois dans l'histoire où ça va marcher. Où les rabbins, ils diront ne pas venir en Israël, mais où le peuple juif, il viendra quand même et ça marchera. Il dit, Rabbi Tzadok à Cohen, c'est la génération de la Géoula et cette génération, nous commençons à la ressentir. Il y a 150 ans, il parle. Et il te dit, à ce moment-là, les rabbins, ils diront, il ne faut pas venir. Mais Am Israël, il viendra. Et ça marchera. Nous sommes donc la génération qui corrige la faute des explorateurs. Et nous sommes donc la génération qui permet de tout simplement ramener le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Babayit Shelo, Be'eretz Israël. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à être bien conscient de ce qu'on est en train de faire. Et je vous souhaite un très bon Shabbat. Shalom. À bientôt.